enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je vais lire avec vous un texte dans Acte 4. Acte 4, les versets 27 à 31. Dans Acte 1, on trouve le passage où Jésus est en train de monter au ciel, et avant qu'il monte au ciel, il leur recommande de rester à Jérusalem à attendre la promesse de Jésus. Dans Acte 2, on a la Pentecôte, où Jésus les visite, il envoie le Saint-Esprit, et ils sont baptisés d'en haut puissamment, de gens apeurés, de gens qui sont timorés dans leur témoignage, ils deviennent des témoins vivants. C'est carrément l'explosion de joie. C'est Dieu qui les visite d'en haut et ils deviennent des témoins puissants à Jérusalem. Et 3000 personnes, tout à la prédication de Pierre, sont converties, sont sauvées. Dans Acte 3, on trouve Pierre et Jean qui, à un jour normal, montent au temple pour aller prier. Et là, il y a, comme d'habitude, un paralytique posé à la porte, appelé à la belle, qui fait la manche. Et ce jour-là, quand ils aperçoivent Jean et Pierre, alors qu'il fait l'aumône, le brave paralytique, le regardent en face et disent, mais ce que nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils le prennent par la main, du coup les chevilles se renforcent, les genoux se renforcent, et il se met à sauter de joie. C'est le miracle, c'est Dieu qui intervient là en public. Il n'y avait pas de salle, il n'y avait pas de climat de louange, il n'y avait rien du tout, pas de musiciens. Là, devant la porte, la belle porte, ce homme est guéri. Et alors, on peut imaginer toute le bon témoignage et on peut s'imaginer toute la bonne chose. Mais voyez-vous, le fait est que lorsque les miracles ont lieu, certains deviennent jaloux. Les uns sont contents, mais d'autres sont mécontents. Et évidemment, ce miracle fait place à un temps de prédication des apôtres. Et puis, les autorités de l'époque viennent les arrêter, leur dire, écoutez, ce que vous faites là n'est pas bon. Et les mettre pendant une nuit en prison. Et ils discutent. Et le lendemain matin, ils les convoquent et ils les menacent. Ils les menacent et leur disent, voilà, arrêtez-vous de prêcher au nom de Jésus. Et on tient la phrase célèbre de Pierre qui dit, mais jugez s'il est bon de plaire plutôt aux hommes qu'à Dieu. Et ils continuent de prêcher. Ils sont menacés, ils rentrent à la maison, et je dirais que voyez-vous, la vie chrétienne, elle a beau être comme ça traversée par des moments, je dirais, où Dieu nous visite, néanmoins, il arrive des moments difficiles. Je voudrais avec vous lire comment ces gens-là, comment ces hommes comme vous et moi, c'est pas des surhommes. Des fois, on a pensé que les apôtres étaient des surhumains. Non, c'était des hommes comme vous et moi, des pêcheurs, des réparateurs de filets de pêche, des collecteurs d'impôts, etc., des bergers. Eh bien, c'est comment ces gens-là ont réagi face à la menace, face au moment quand les choses sont devenues difficiles. Ils se sont rassemblés, ils ont commencé à parler entre eux, et puis ils se sont mis à prier. Verset 24, ils dirent ensemble à Dieu, Seigneur, tu es le Dieu de la terre, du ciel et de la terre, qui a fait toutes choses. Et tu as dit par l'Esprit Saint, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre toi, contre ton Saint-Fils Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, maintenant qu'on est menacé, maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Quelques simples pensées avant que nous reprenions le temps de louange. Quand les choses deviennent difficiles, voilà ce qu'ils ont fait. Premier point, ils ont amené Dieu dans l'équation. Seigneur, vois leurs menaces. La première personne à qui parler dans nos difficultés, c'est à Dieu lui-même. ni aux autres, mais d'abord à Dieu. Ils ont dit, Seigneur, mes voix, un peu comme Ézéchias à l'époque, menacé par le roi étranger qui voulait l'envahir, il prend la lettre du roi et il va dans le temple de Dieu. Il dit, Seigneur, mes voix, Seigneur, vois le mal qu'on veut faire en ton peuple. Je ne sais pas où tu en es ce soir. Peut-être tu es comme ces apôtres, tu passes un temps difficile. On peut être apôtre, on peut être pasteur, on peut être ancien, on peut être chrétien, vraiment marchant droit et passer des temps difficiles. La première chose à faire, c'est amener Dieu dans l'équation. La seconde chose à faire, eh bien, ils ont demandé une foi plus grande. Ils n'ont pas dit, Seigneur, protège-nous des méchants qui nous en veulent. Seigneur, aide-nous à bien fuir. Même si des fois, je pense aussi que fuir est une chose biblique. Notamment devant le péché, n'est-ce pas? Mais ils ont demandé une foi plus grande. Écoutez-moi ce qu'ils prient. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une entière assurance. Autrement dit, donne-nous une foi plus grande. Donne-nous face à nos craintes, face à nos peurs, une foi plus grande. Voyez-vous, c'est irréaliste de penser que parce qu'on est chrétien, que la crainte disparaît du jour au lendemain. La crainte, la peur sont des éléments qui font partie de la vie chrétienne. Autrement dit, la crainte et la peur côtoient facilement la foi. Mais la foi est l'antidote de la peur. Je répète ça. La foi, la confiance en Dieu. La confiance qu'au-dessus de moi, il y a une main paternelle qui est sur ma vie et qui m'aime et qui m'accompagne. Cette foi-là est l'antidote de la peur. Vous avez l'air convaincu. Franchement, vous êtes là fatigué, je comprends, mais dites voir amen. Ça veut dire qu'il est un amen vigoureux et savoureux. Lorsque Jaïrus a reçu la nouvelle que sa fille était mourante, voire morte, Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas. Peut-être tu passes des temps difficiles, j'aimerais te dire, ne crains pas. De la part de Dieu ce soir à quelqu'un dans cette salle, ne crains pas. Crois simplement. Fais-moi confiance simplement. David a passé des moments extrêmement difficiles, des hauts et des bas, mais aussi des bas aussi grands que les hauts. Dans un des psaumes, 56, verset 4, il dit, « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Je ne sais pas où tu en es ce soir, mais es-tu dans la crainte ce soir? Je vais t'inviter à un instant amener Dieu dans l'équation, à croire que Dieu est plus grand que ta montagne de problèmes, et là, à te confier en lui. On a chanté « Quel ami fidèle !»« Quel bon berger !» n'est-ce pas? Mais ce n'est pas seulement un chant, c'est une réalité. C'est une réalité. Amen. Troisièmement, il s'attendait à ce que Dieu intervienne. Il prie ainsi, « Seigneur, eh bien, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec entière assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des prodiges et des miracles. » Moi, ça me plaît, ça. À cause d'un miracle, ils viennent de se faire taper dessus, passer une nuit en prison. Ils n'en ont pas assez, ils en veulent un de plus. Voyez-vous, je pense que cela reflétait leur connaissance du Seigneur. Avec lui, ils avaient traversé une tempête terrible sur le lac de Génézareth. Ils ont failli couler. À deux reprises, Dieu les a sauvés. Une première fois, ils se lèvent et Jésus ordonne à la tempête, « Tempête, calme-toi !» Et le vent s'est tu, illico presto. Même le vent lui est soumis. Même la tempête lui est soumise. J'aimerais te dire, la tempête que tu traverses, elle est aussi entre les mains de Dieu. Et Dieu, d'un seul mot, peut la calmer d'un instant à l'autre. Amen. La deuxième fois, ils sont partis tout seuls. Il les a envoyés en précurseur. Allez-y les gars, je vous rejoins après. Et en pleine nuit, grosse tempête. Et Jésus le voit de loin et se dit, il faut que je sauve mes amis. Et alors il prend le chemin le plus court. Il marche sur l'eau. Allô? Il marche sur l'eau. Et les disciples se sont dit, waouh, un fantôme. C'était Jésus qui s'est rapproché d'eux. Et il les a sauvés. Et vous savez quoi? Ce même Jésus n'a pas changé. Il est toujours actif en 3-8. 24 sur 24, 7 sur 7. Et ce soir, il est là. Et il va encore te sauver. Et ses disciples ont compté sur un nouveau miracle, sur une nouvelle intervention de Dieu. Tantôt, ils avaient besoin d'un Jésus qui calme la tempête, tantôt d'un Jésus qui vienne les rassurer au milieu du lac, tantôt ils étaient face au cas de Lazare qui était mort plus vite qu'ils ne pensaient. Et Thomas s'est dit, bah, écoute, si on y va, hein, allons mourir avec toi. Et Jésus a renversé la situation. Et quand ils avaient prié tout cela, voilà la clé. Et je voudrais un instant m'arrêter là-dessus, avant que nous ayons loué le Seigneur de nouveau. Quand ils avaient fini de prier, le lieu où ils avaient prié trembla, et ils furent remplis du Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit, ce remplissage du Saint-Esprit, ce baptême de l'Esprit-Saint, n'est pas un espèce de machin qu'on peut se vanter avec. C'est pas une médaille qu'on nous colle sur la veste. Ça y est, tu es chrétien, né de nouveau, baptisé d'eau et stempel, baptisé de l'Esprit-Saint. C'est la vie chrétienne démarre avec le fait que l'Esprit-Saint vienne demeurer en nous et que nos corps deviennent le temple du Saint-Esprit. Et cette vie de l'Esprit, elle s'alimente. Et moi, ce qui me réjouit, c'est que les apôtres n'ont pas seulement été baptisés à la Pentecôte, mais aussi là, ils ont été baptisés au moins deux fois dans le Saint-Esprit. Et je pense qu'ils ont vécu dans leur vie chrétienne d'autres moments où Dieu les a visités et les a remplis. Parce que voyez-vous, sans le Saint-Esprit, rien ne fonctionne. L'Église a démarré avec le Saint-Esprit à la Pentecôte. Et nous avons besoin de cette énergie d'en haut, de cette vie de l'Esprit en nous. Parce que sans lui, la vie chrétienne est vraiment aride. Et vraiment, franchement difficile. Certains se demandent, mais à quoi ça sert d'être baptisé de l'Esprit-Saint? À quoi ça sert de parler en de nouvelles langues? Est-ce que ce n'est pas un petit machin un peu psychologique, là, où on se frotte le cerveau et puis on balbutie des mots incompréhensibles? Je me suis posé un temps ces questions-là. Mais je vous assure que ce n'est pas vrai. Le baptême du Saint-Esprit, avec l'effet visible du parler en langue, c'est une capacité que le croyant reçoit d'entrer en contact avec Dieu qui dépasse la réalité intellectuelle. Ça me permet de communiquer avec Dieu d'esprit à esprit. Et quand mon intelligence n'arrive plus à prier en français, en allemand, en anglais ou en alsacien ou comme vous voulez, eh bien, c'est l'Esprit-Saint qui habite en moi, qui prend le relais et qui me permet de prier selon la volonté de Dieu, d'après Romains 8, 26. Et dans ma faiblesse, l'Esprit-Saint vient prier et m'aider à prier. Et il intercède selon la volonté de Dieu en faveur des saints. Donc aussi en ma faveur à moi. Et autrement dit, je peux m'édifier moi-même et me fortifier dans la mesure où je parle en langue. Je me rappelle un jour, j'avais avec mon papa, on était fraîchement convertis. J'ai eu un des rares conflits avec mon papa. J'habitais Colmar à l'époque et j'avais ces questions sur le Saint-Esprit et le baptême de l'Esprit-Saint et le parler en langue. Ça me paraissait vraiment étrange, cette langue, ces mots qu'on dit et qu'on ne comprend pas et qui veulent rien dire là-dedans dans mon cerveau, mais qui semblerait-il ont un impact là-haut. Franchement, j'avais du mal avec ça. Et alors, j'avais été avec mon cher papa, une fois en conflit. Mon papa, à l'époque, il avait 25 ans de moins. Quand il étendait la main au-dessus de la table, elle m'atteignait encore. Et je me souvenais de ses empreintes digitales sur mon orifice buccal quand j'étais plus jeune. Et quelque part, je le craignais encore à 20 ans. Et ma mère m'a téléphoné ce soir-là, c'était un vendredi après-midi, et me dit, « Claude, tu rentres ce soir ?» J'ai dit, « Non, je ne rentre pas ce soir. » Il me dit pourquoi, je sais ce qui m'attend. Elle me dit, tu rentres, clac. Alors je me suis dit, bon, voilà, je n'ai plus qu'à m'exécuter, parce que si un maire dit ça, c'est grave pour moi. Hein. Alors je suis rentré. Et de Colmar à hauteur de Peugeot, j'ai prié. Oh Seigneur, tu vois, oui, c'est vrai, je te demande pardon pour ce que j'ai dit, fait. Enfin, j'avais tort dans mon attitude. Mais je craignais. Alors, quand j'avais prié, j'ai prié comme un fou, hein, ma voiture, ceux qui ont dû me dépasser, on s'est dit, mais celui-là, il a un problème. Donc, j'ai prié. Et tout à coup, je ne savais plus quoi prier. Hein. Je me suis dit, là-dedans, j'étais vraiment très mal à l'aise. J'étais mal. Et pendant que je priais, me revenait à l'esprit une prédication du frère Jean, en tout cas un extrait, où il disait que Paul priait en langue plus que nous tous. Et combien le parler en langue nous aidait, nous édifiait. Nous... Alors je me suis dit, oh, maintenant, tu n'as plus le choix, tu n'as qu'à prier quoi, en langue. Alors j'ai prié en langue. Je roulais en voiture. Je disais, mais tu es fou. Et je continuais. Et arrivé à la hauteur de Peugeot, de Rixheim, tout à coup, une paix est venue sur moi. Je me suis dit, maintenant, tu es fou. Tu te rapproches de la destination où t'attendent quelques moments difficiles et toi, tu es en paix. Alors, je me suis dit, ben, tant, autant y aller en paix, hein. Alors, j'ai continué à prier, j'ai prié en langue, j'ai prié. Et j'étais bien, j'étais, waouh, cette force qui venait, je me suis dit, mais ça marche ce truc-là, hein. Mais ça marche cette prière en langue. Et pendant que j'arrivais chez moi, des pensées me venaient des mots, des idées, me venaient de faire ceci, cela. Et mon papa à la maison. Il m'a regardé rentrer. Je lui ai dit quelques mots gentils quand même. Hein. J'étais, je me suis humilié et puis il m'a pris par les bras. Il m'a dit, mon fils, je t'aime. Oh, aïe, et mon cœur était dans la joie après. Romains 8, 26 dit, dans notre faiblesse, quand nous ne savons plus comment prier, l'Esprit Saint vient à notre secours. Par des paroles inexprimables, des soupirs. Et c'est en fait l'Esprit Saint qui est en nous, qui prie dans la volonté de Dieu en notre faveur. Et j'aimerais vous dire que ça n'a pas changé depuis 20 siècles. C'est une réalité qui fonctionne. Ce n'est ni une médaille, ni un label, mais c'est un cadeau. 1 Corinthiens 14, verset 1 dit, aspirez au don spirituel. Un don est un don, c'est un cadeau, vous ne le méritez pas. N'attendez pas d'être trois fois saint et canonisé et béatifié pour essayer de le recevoir. C'est maintenant un don disponible pour ceux qui ont soif et qui en veulent. Aspirez au don spirituel. Il est dit aspirer, ça veut dire avoir envie d'eux, avoir soif d'eux, le désirer de tout son cœur. Quand j'étais petit garçon, je me rappelle un jour, on m'a promis un mini vélo pour le Noël. Ah, oh, ce mini vélo, j'en ai parlé en long, en large, en travers, pendant des semaines et des mois avant. Et le jour où il est arrivé, c'était mon mini vélo. Ce mini vélo, ouais, j'étais fier comme un coq. Et j'ai roulé avec. Et c'était un cadeau. Mais je l'attendais. Je l'attendais dans mes rêves. Je le voyais. Je le voulais. Je le désirais. Je voyais mes copains en train de rouler en bande. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs après. Il a fini en mini-cross dans la forêt. Mais je le voulais. Bien-aimé, Dieu donne à ceux qui veulent. Allô? Voyez-vous, il est dit, cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Etc. À ceux qui ont soif. Certains me diront, mais j'ai déjà demandé tellement et puis ça ne vient pas. J'aimerais te dire, cherche encore. Ça fait 5 ans, cherche encore. Ça fait 10 ans, ben cherche encore. Aspire encore. Demande à Dieu, parce que Dieu n'est pas sourd. Dieu t'aime et Dieu veut te donner. Tu ne sais pas ce que tu rates quand tu ne l'as pas. Je t'assure, tu ne sais pas ce que tu rates. C'est vraiment une force, une capacité que Dieu te donne d'en haut. Et quand tu pries en langue, tu t'édifies toi-même. Tu te reconstitues, tu te fortifies. Et peut-être tu as soif, tu dis, mais moi j'ai déjà reçu le baptême de l'Esprit Saint. Est-ce que j'ai besoin une deuxième fois? Je me dis, oui. Parce que des fois, on se fatigue en cours de route, comme les apôtres là. Et ils ont été remplis une deuxième fois et ils ont reçu parce qu'ils s'y attendaient. Alors face aux menaces, Dieu les a remplis du Saint-Esprit. Face à la menace d'une église naissante, fragile, Jésus leur dit, allez à Jérusalem, acte 1, versets 4 et 5. Allez là-bas et attendez. Attendez jusqu'à ce que vous receviez la promesse de Dieu le Père, ce Saint-Esprit. On voudrait ce soir prendre du temps pour nous attendre à lui. Voyez-vous, c'est pas un truc qu'on délivre comme ça sur commande, on impose les mains et ça marche. Oui, je crois que ça marche. Oui, Dieu donne parce qu'on impose les mains. C'est marqué dans les actes. Mais ça correspond aussi à une attente. C'est la réponse à une attente. Attendez-vous à recevoir. Et dans la mesure où vous vous y attendez, dans la mesure où vous soupirez après, comme brame le cerf après les courants d'eau. C'est une belle poésie, mais c'est une réalité. Je me rappelle du jour où on était au fin fond du Centrafrique et on avait 3 jours d'eau. D'eau purifiée, d'eau qui était avec un produit dedans qui désinfectait. Et au bout de 3 jours, avec les deux copains, avec les deux amis, on n'avait plus d'eau. Et le dernier matin, on a cuit un café avec sa d'eau dans la tasse. On a susurré le café. Et à midi, on avait tellement soif qu'on a traversé le village pour essayer de trouver quelque part une boisson capsulée. Style un Fanta ou un Pepsi ou un Coca. Et tout à coup, je vois au fond d'une cour un congélateur. Oh, un congélateur. Au plein fin fond du Centrafrique, dans la Lobaye. On venait de prêcher, d'avoir un culte qui était très animé. On avait transpiré, on avait soif. Et on va au comptoir, le copain. On dit, vous avez, je veux savoir. Oui, j'ai du Coca. Du Coca. Mais c'est fantastique, du Coca, mais c'est génial. J'aurais bu n'importe quoi ce jour-là. Et alors, il était fier de nous servir du Coca hors d'un congélateur, sans courant électrique. Il était chaud, le Coca. Mais vous savez quoi? On l'a payé et on l'a bu d'un trait. Tellement on avait soif. Soif, soif, soif. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Dit le cantique. Jésus a dit, je termine par là, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et l'auteur de préciser, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. S'il vous plaît, si ce soir vous venez prier avec quelqu'un, ayez soif. Ayez soif. Ayons soif. Amen. Amen.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.